Et ben voilà, on est parti.
Donc on est, le trio est en place dans le studio. On va passer une heure ensemble, chers amis, aborder différents sujets et notamment le gros morceau de cette émission, puisque on avait envie de vous parler un petit peu de danse connotée avec une grosse connotation érotisme, mais pas seulement. On va un petit peu casser le mythe en quelque sorte à propos de ça, et on parlera un petit peu de pole dance et ce genre de choses. Mais pour le moment, eh bien écoutez, puisque là on a fait une longue pause estivale durant lesquelles on a fait comme vous, chers amis, on a pris quelques vacances. D'ailleurs, t'es allée où, toi, Laurence ?
Alors, moi, je suis bourguignonne, tu le sais, je suis allée en Bourgogne, après, je suis allée en Dordogne, je suis repartie en Bourgogne et j'ai fini en beauté sur la Côte d'Azur, que je ne connaissais pas, du côté de Nice. Ben voilà, je ne connaissais pas Nice et j'en ai profité pour aller visiter la fondation Paul Mag à Saint-Paul-de-Vence. On dit MAG, hein. Ça s'écrit M-A-E-G-H-T et ça se prononce MAG. Mmh. C'est un endroit absolument superbe où il y a des sculptures, des œuvres d'art. On y trouve des Giacometti à tomber. On y trouve également des œuvres très sympathiques. Je pense particulièrement à Miro. Tout le monde connaît Miro.
Oui, c'est ce fameux peintre espagnol, mais c'est vrai qu'à Nice, on pense plutôt au musée Chagall.
Oui, bah alors il y a une peinture de Chagall, une grande peinture qui occupe un pan de mur à la fondation Paul Mag. Une très belle peinture, enfin, il faut aimer Chagall, hein. C'est toujours un nombre incroyable de personnages, c'est toujours très, très particulier. Mais je pensais à Miro qui est espagnol. Qui était espagnol et catalan quand même, parce que Barcelone, d'ailleurs si vous allez à Barcelone sur la Rambla, je fais toujours des digressions Loïc, tu vas t'y faire, sur la Rambla on marche à destination d'une bouche de métro et j'espère que les gens s'aperçoivent qu'ils marchent sur une mosaïque qui est signée Miro, mais très peu de gens le...
Et c'est lui aussi qui a fait quelques designs des sculptures de Parc Güell, je crois,
tout
notamment.
À fait, tout voilà. À fait.
Et le design aussi du logo d'une banque, mais ça on va pas citer de marque. Et donc tu as vu des choses dans cette fondation, la fondation Mag. Donc effectivement, je me disais mais qui c'est cet artiste Mag ? En fait non, c'est le nom
c'était
du
un
gars qui a rassemblé
enfin,
les œuvres.
C'était pas un collectionneur, c'était un marchand d'art qui était très avisé, qui savait repérer un peu et qui était vraiment très épris de l'art moderne. Et il a créé sa fondation en compagnie de sa femme pour que les artistes puissent voir pérenniser leurs œuvres et travailler surtout dans le plus grand confort possible. Donc c'était vraiment un amateur d'art et collectionneur et marchand d'art, mais très éclairé.
Mais à ma connaissance, Miro n'a pas fait d'œuvres très olé olé. Chagall, lui aussi, c'était un gros romantique,
alors, si,
j'ai l'impression.
Figure-toi qu'il en avait fait une quand même qui était très olé olé, mais j'ai perdu le titre, qui était une sculpture à Barcelone, qui était le phallus et la vulve, pour ne citer que celle-ci. Donc quand même...
Autant pour moi.
Voilà. Mais si on revient à la Fondation Mag, il a, quand on arrive dans le parc, une immense sculpture qui est signée Miro, donc qui est très colorée. Alors, ça peut beaucoup amuser les enfants et en général, c'est ce que ça fait. Parce que les enfants ne voient pas le symbole des petits, hein, je parle des petits-enfants. Sauf que quand on est un adulte comme moi, un peu blette, on voit bien quand même le symbole sexuel et c'est sexuel. C'est extrêmement phallique, mais c'est très drôle et oui, c'est effectivement très drôle et ça peut être vu différemment selon qu'on a 75 ans ou 4 ans et demi.
7 ou 77 ans, comme on dit couramment.
Oui, je vous promets 75 ans, je trouve que je suis pas
mal.
Oui, encore,
non, tu
hein,
l'es. Et voilà. Tu ne fais pas tes 45 ans. Quoi.
Mais il me semble que toi-même, de ton côté, tu as vu des choses.
Oui, moi aussi, j'ai fait comme vous, chers amis. Je suis allé un petit peu en vacances. Moi, je suis allé en Suisse. Alors toi, tu es allé en Bourgogne. Tu as dû passer à côté du village de Bèze. moi, je suis allé en Suisse et je suis passé à côté du village de Gland. Je suis même passé à côté d'un bled qui s'appelle Concise. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de me demander, mais au Moyen-Âge, comment ils appelaient le seigneur du lieu? Messire Concise, enfin je sais pas, bref, vous voyez donc mes neurones ne s'arrêtent pas de fonctionner pour faire des blagues de merde, y compris pendant les vacances. Et je suis allé en Suisse, du côté de la Suisse alémanique, à Berne en fait, puisque ma dulcinée vit là-bas. Et donc dans cette jolie ville, il y a une rivière en fait qui coule au milieu qui s'appelle l'Ar. Oh. Et les gens vont se baigner dans la rivière parce qu'elle est très propre. Enfin, ici à Avignon, on n'irait pas se baigner dans le Rhône, hein. Mais là-bas, ils peuvent se le permettre. Castres. Et donc, tout l'été, il y a des gens qui se promènent en short dans les rues de la ville, ou par exemple, parce qu'ils sont allés se baigner, puis après, ils rentrent à la maison, ils prennent le tramway, ils sont en torse nu, etc. Ça pose a priori pas de problème. Là où j'étais un petit peu plus circonspect quand même, c'est quand j'ai vu des gamines en bikini dans le tramway, ou alors qui se changeaient carrément directement dans le tramway, quoi, à la faveur d'une serviette bien placée. Donc là, j'ai trouvé que ça allait un petit peu loin. Alors, je suis peut-être un Français pudibond, je ne sais pas, mais là, j'ai trouvé ça un peu gonflé, voilà. Mais bon, dès qu'on traverse une frontière, hein, c'est d'autres mœurs. Et on s'en étonnera pas. Enfin, moi, je m'en suis étonné un peu, venant d'un pays un peu pudibond, peut-être, et dans un pays, la Suisse, qui est quand même considéré comme assez taciturne au niveau des mœurs. C'est quand même un pays calviniste, quoi.
Pas toujours rock'n'roll, sauf à Berne.
Ben écoute,
on
aura l'occasion d'en parler sans doute de tout ça, de la Suisse, le jour où on parlera de Griselie d'Israël, hein, cette prostituée mystique. Mais pour le moment, eh bien écoutez, puisqu'on a parlé un petit peu de ce qu'on a vu en vacances, bon, pour ce qui est de nos siestes crapuleuses ou nos folles nuits d'amour, ça par contre c'est notre vie privée.
Ah ben oui.
Puis vous avez vécu à peu près les mêmes, hein, vous de votre côté, chers amis qui nous écoutez. Mais pour le moment, eh bien écoutez, je vous propose de nous mettre un petit peu dans l'ambiance, puisque les vacances, c'était pas il n'y a pas si longtemps quand même. Hein. Là, on est début octobre, et il y a un mois et demi, on était encore en train d'être sur la plage à promener nos doigts de pied dans l'onde claire et chaude. Et bien du coup, je vous propose d'aller traîner, zoner un petit peu sur le sable avec ce morceau de Patrick Coutin, « J'aime regarder les filles ».
J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, sur le...
J'aime regarder les filles. Oui, moi aussi, merci. D'autant plus que je suis bien entouré en studio. J'en ai deux jolies juste à côté de moi. À l'instant, on écoutait Patrick Coutin avec ce morceau mythique, en quelque sorte. J'aime regarder les filles, qu'il avait sorti au début des années 80. Un pauvre garçon, il a fait autre chose pourtant. Hein. Mais on ne le connaît que pour ce morceau-là. C'est un one-shot man, en quelque sorte. Voilà. Patrick Coutin, j'aime regarder les filles, puisque c'était un petit peu ce qu'on pouvait fredonner peut-être sur la plage cet été. Et pour ceux qui nous auraient zappé l'an dernier, eh bien écoutez, je vais rappeler un petit peu quel est le concept de cette émission qui est relativement récente sur la grille d'Osmose Radio, chers amis. Alors, Erosmose, comme son nom le laisse entendre, vous l'aurez compris, c'est une émission consacrée à l'érotisme notamment, hein, et aux petites élucubrations du fameux Eros qui folâtre gentiment autour de chacun d'entre nous, je suppose, quand on a des idées un peu coquine, mais aussi on va parler plus généralement de l'accessualité. On va aborder tout ça sous le prisme de différents aspects culturels, l'art notamment. Laurence se charge de tout ce qui est de la partie littérature parce qu'elle est extrêmement calée sur le sujet. Et je vous renvoie au podcast précédent sur le site d'Osmose Radio pour écouter un petit peu certaines lectures qu'elle a fait jusqu'à présent. Je me demande où tu vas dénicher certains textes parfois.
Je cherche.
Ça, je veux bien te croire. Et donc, en plus de cette archéologie littéraire, eh bien, donc on parle un petit peu de la sexualité, de l'érotisme sous différents prismes. En fait, on l'aborde par différents prismes, notamment l'art, la culture, la littérature et aussi certains aspects de société, notamment. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, avec Mélanie, on parlera de la danse, de la pole dance et d'autres styles un petit peu affiliés, en tout cas à laquelle notre invité d'aujourd'hui s'est consacré. En précisant tout de même qu'il ne s'agit pas que d'une danse connotée sexuelle, connotée cabaret, connotée fille de joie, en quelque sorte, pour ce qui est des pires comparaisons.
C'est voilà. Bien de le préciser aussi, hein.
Et puisque je parlais de littérature, puisque c'est quand même, en plus on a une belle langue, la langue française, qui s'y prête assez bien, eh bien il y a beaucoup de textes qui sont assez coquins, qui sont assez drôles et qui évoquent l'érotisme de manière parfois assez crue, parfois assez subtile. Et toi Laurence, tu as le chic pour nous dénicher tout ça et pour aujourd'hui tu nous as notamment sélectionné deux textes.
C'est ça, je vous ai sélectionné deux textes. Alors en ma qualité d'archéologue, je vous ai sélectionné deux textes, mais le premier, je l'ai pris dans un livre, un très joli livre qui s'appelle « Eros émerveillé », qui est paru chez Gallimard dans la collection Poésie, je le dis hein, quand même. Et c'est un très beau bouquin du vertige libertin qui envahit la poésie française au XVIe siècle, jusque au blason amoureux des surréalistes, de l'érotisme le plus feutré à la pornographie la plus exacerbée. Eh ben, il y a tout un recueil de poèmes. Donc, je me suis beaucoup amusée, surtout quand j'apprends que Louise Labbé a écrit aussi des choses plutôt sympatoches quand même. Hein.
Louise Labbé, c'est Les Roses de Saadi, pardon, c'est Marceline Desbordes-Palmes.
Voilà, tout à fait. Ronsard aussi s'était amusé beaucoup. Bon, Pierre Louis, etc., etc. Il y en a beaucoup. Donc, ce que vous savez moins, c'est que notre ami Jules Verne, le grand Jules, né à Amiens, je le dis pour nos amis de la Picardie, je crois que ça on dit plus Picardie, mais enfin ils sont quand même Picards, qui nous écoutent, Jules Verne, le grand Jules, hein, 20 000 lieues sous les mers, j'en passe, et des meilleurs. Eh bien Jules, il s'est prêté au jeu d'écrire un poème qui est peut-être plus près de la pornographie que de l'érotisme, c'est très torride, et comme ma réputation est de « je n'ai pas froid aux yeux », ben, je vais aller vous le dire ce poème. D'autant plus qu'il a quand même un titre très évocateur. Je n'ai peur de rien, Mélanie. Ça s'appelle « Lamentation d'un poil de cul de femme ». C'est 20 000 lieues sous la mer.
T'as peur de rien comme Robur le Conquérant ou le Capitaine Nemo.
C'est ça, donc j'y vais. Il est dur, lorsque sur la terre, dans le bonheur on a vécu, de mourir triste et solitaire sur les ruines d'un vieux cul. Jadis, dans une forêt vierge, je fus planté sur le versant qu'un pur filet d'urine asperge et parfois un filet de sang. Alors, dans ce taillis sauvage, les poils poussaient par mes sillons et sous leur virginal ombrage paraissaient de jolis morpions. Destin fatal, un doigt nubile un soir par là vint s'égarer et de sa phalange mobile frotter, racler et labourer. Bientôt au doigt, le vif succède. Et dans ses appétits ardents, appelant la langue à son aide, et nous déchire à belles dents. J'ai vu s'en aller mes dépouilles sur le fleuve des passions, qui prend sa source dans les couilles et va se perdre dans les cons. Hélas, l'épine est sous la rose et la pine sous le plaisir. Bientôt, au bord des exostoses, des chancres vinrent à fleurir. Les coques de leurs crêtes inhumaines se parent dans tous les chemins. Dans le département de l'Aisne, gambadent les jeunes poulains. Mais quand le passé fut propice, pourquoi songer à l'avenir? Et qu'importe la chaude pisse quand il reste le souvenir? N'ai-je pas vu tous les prépuces avoir chez nous un libre accès, alors même qu'ils étaient russes, surtout quand ils étaient français? J'ai couvert de mon ombre ami la grenette de l'écolier, le membre de l'académie et le vite du carabinier. J'ai vu le vieillard phosphorique, dans un effort trop passager, chargé avec son dard éthique, sans parvenir à décharger. J'ai vu, mais la motte déserte n'a plus de flux et de reflux, et la matrice trop ouverte attend vainement le phallus. J'ai perdu depuis une année mes compagnons déjà trop vieux, et mes beaux poils du périnée sont engloutis dans divers lieux. Aux lèvres des jeunes pucelles, croissez en paix, poils ingénus. Adieu, mes cousins des aisselles, adieu, mes frères de l'anus. J'espérais à l'heure dernière me noyer dans l'eau des bidets, mais j'habite sur un derrière qu'hélas, on ne lave jamais. Il eut parlé longtemps encore, lorsqu'un vent vif précipité, broyant, mais non pas inodore, le lança dans l'éternité. Ainsi, tout retourne dans la tombe, tout ce qui vit, tout ce qui fut. Ainsi, tout change, ainsi, tout tombe. Illusion et poil du cul. C'est quand même signé Jules Verne, hein. C'est un poème de 1855. Moi, je le trouve assez sympa quand même.
Attends, 1855, c'est un écrit de jeunesse alors?
C'est un écrit de jeunesse, tu peux le dire, mais il faut bien quand même commencer par quelque chose. Nous sommes sur Erosmos, l'émission qui vous désenquilose. Donc bon, forcément, il a commencé comme ça, Jules Verne. Après, il a écrit, ou je ne sais pas à quel moment, 20 000 lieues sous les mers, il a écrit tout ce qu'on connaît. On aime beaucoup Jules Verne.
Mais après, on a fait une version porno, une adaptation, c'est 20 000 lieues sous la mer.
Mais 20 000 lieues sous la mer, donc, tu vois, la lamentation d'un poil de cul de femme, c'est... Ça va, Mélanie, t'as assisté, il y a pire, hein.
Alors ça, c'est effectivement, c'est de la part de Jules Verne, qui était un garçon dans lequel il n'y avait aucun personnage féminin dans ses romans. C'est vraiment, les femmes sont les grandes absentes de ses aventures. Ça n'enlève rien à son talent littéraire, mais c'est vrai qu'il y a vraiment.
Mais c'est vrai ce que tu dis.
Aucun personnage féminin dans ses histoires, vraiment.
Pourtant, Jules Verne visionnaire, Jules Verne qui était représenté d'ailleurs au Festival d'Avignon.
Oui, avec un spectacle que tu avais chroniqué d'ailleurs.
Ben, un très beau spectacle. Je le dis.
C'était quoi? C'était sur 20 milieux sur les mers.
C'était. Il y avait deux spectacles. Il y avait un spectacle sur la vie, une histoire arménienne d'un fils qui part à la recherche de souvenirs et de choses comme ça. Et puis il y avait un spectacle de Jules Verne. Et le nom va me revenir après l'émission.
D'accord.
Voilà. Mais c'était très bien.
Ben Jules Verne, qui lui était un peu un bourgeois très près de ses sous, etc. Mais comme ça, qui avait.
Beaucoup de talent et beaucoup d'humour aussi, quand même, tu sais.
Oui.
Si, on n'est pas forcément d'accord, mais il y avait quand même de l'humour. Il y a des pièces où. Il y a des œuvres où.
Ça transparaît pas de prime abord, je l'avoue.
Ça dépend ce que tu prends.
Ça dépend ce que tu lis, tu me diras. Mais bon, de toute manière, hein, quelqu'un qui était sans doute charmé par les danses des cabarets de l'époque, puisque je disais que Jules Verne était un bon bourgeois typique de la seconde moitié du 19e siècle. Et donc qui se laissait charmer, comme tant d'autres à l'époque, s'il avait déjà des prédispositions pour apprécier les poils de cul, j'imagine qu'il allait guetter un peu ceux des danseuses de French Cancan, dont on voyait les culottes fendues et bien d'autres choses encore.
Mais tu sais que les poils de cul s'apprécient de moins en moins quand même. Vous demandez ça aux
esthéticiennes. Ça dépend.
Oui, mais bon...
Le mois prochain, on invite une esthéticienne pour en parler.
Tout à
tu
fait.
As raison.
On va parler de l'intégrale, l'épilation intégrale. Mais moins bon. De poils de cul, c'est... Peut-être mieux, je ne sais pas, on nous
le
dira.
Mais le charme de la danse, bon, je suis sûr que la danse de Salomé, quelle qu'ait été sa pilosité, aurait fait le même effet de toute façon. Et justement, de danse, il va encore en être question.
Absolument.
Avec
alors,
le prochain texte.
Le prochain texte parle de danse. Alors, c'est un prochain texte qui est signé quand même Baudelaire.
Baudelaire, encore un grand nom de la littérature, qui lui faisait partie à peu près de la même classe sociale que Jules Verne, sauf que lui, il craquait tout son pognon et ses parents avaient été obligés de le mettre sous tutelle. Alors, ce qui ne l'a pas empêché quand même d'aller craquer ce qui lui restait comme thune, justement avec les diverses prostituées de Paris.
Ça va changer parce que c'est quand même Baudelaire, donc c'est, enfin, Verne c'est quand même Verne et Baudelaire c'est quand même Charles. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus rond. Bah, vous me direz, ça s'appelle « Le serpent qui danse ». Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux, où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur. Voilà, alors c'est un, je vous le dis quand même, c'est un poème lyrique, tiré des Fleurs du Mal de 1857, et je dis, il s'agit d'un poème en quatrain à rimes croisées, divisé en 9 strophes. Alors, amis de la poésie, vous savez ce que je veux dire. Et en fait, c'est un poème où Charles Baudelaire évoque sa maîtresse, Jeanne Duval. Il a d'ailleurs été mis en musique par plusieurs auteurs-compositeurs, notamment Léo Ferré en 1957 dans l'album Les Fleurs du Mal, Serge Gainsbourg en 62 dans l'album numéro 4, François Feldman en 1991. Et alors là, je ne sais pas qui c'est, mais bon, Dodd, ça vous parle en 2009?
Ah, je ne connais pas du tout. Moi, je connaissais la version de Gainsbourg. Et en même temps, la rime, enfin, la composition de ce vers, de cette versification un petit peu bizarre, avec des rythmes un peu irréguliers, mais très chaloupés.
C'est les rimes croisées. C'est vraiment le principe de la rime croisée.
C'est très musical.
C'est très musical. Et tu vois, il y a des strophes où tu dois allonger. C'est vraiment là, tu dois réciter la... Voilà. Ben la double syllabe, il faut l'entendre quand tu es récitant de rimes croisées.
Tu dois allonger la syllabe pour donner l'impression allongé.
Allonge, voilà, parce que tu dois allonger ta double syllabe. Voilà, je vous ai tout dit.
Et en plus, tu as l'accent bourguignon, donc naturellement, tu allonges.
J'ai l'accent bourguignon, donc naturellement, j'allonge.
Et puis un petit peu quand on joue au poker aussi, t'allonges. Ah oui. Mais bon, là, c'est encore autre chose. Et bien écoutez, après ce serpent qui danse, alors moi, je suis du signe du serpent et je danse que sur les parquets des bals tango. Par contre, je vais me limiter à ça. Mais, et je chaloupe beaucoup moins que le serpent que tu décrivais à l'instant. Enfin, en tout cas, que cette comparaison que Baudelaire faisait avec Jeanne Duval, qui était son grand amour à ce moment-là. Et bien, puisqu'on va parler de danse un petit peu plus sérieusement avec notre invité, je vous propose un petit peu de nous mettre un peu dans l'ambiance avec un morceau de Vive la fête, tout de suite, Décadence.
Décadence.
est-ce que j'aime ce groupe ? À l'instant, c'est Vive la Fête, un groupe bien choisi, au nom bien choisi, pour ouvrir votre week-end, chers amis, avec ce titre, La Décadence. Parce que, ouais, on va parler de danse tout à l'heure avec notre invité, des danses qui ont un côté un petit peu sulfureux, qui ont parfois mauvaise réputation, donc qui peuvent être considérées un peu comme décadentes par certains esprits chafouins, mais on s'emploiera tout à l'heure à un petit peu dédramatiser tout ça. Et hors antenne, donc pendant ce morceau, on avait une petite conversation avec Loïc, notre charmant régisseur, à propos de l'aspect pornographique, en tout cas pornographique d'après les canons de l'époque, bien entendu, au milieu du 19e siècle, sous la censure du régime impérial de Napoléon III, c'était pas forcément facile de sortir des poèmes qui sortaient un peu du lot. Et notamment, il y avait eu un procès retentissant au moment de la sortie des Fleurs du Mal de Baudelaire.
Oui, mais je pense, c'est vrai, on discutait avec Loïc, on parlait de ce poème de Jules Verne qui n'a probablement pas été édité en son temps. Donc dans le recueil, quand même, dans l'anthologie, il y a beaucoup de noms connus, il y a beaucoup de noms moins connus, mais il y a la vraie nécessité pour tous ces auteurs, et je pense que Jules Verne en faisait partie, comme Baudelaire, hein, de dire effectivement l'impudeur, l'incroyable besoin d'impudeur qui les saisissait. Ils avaient envie de parler de sexe de façon... De façon, j'allais dire, nette, précise. Oui, bah nette et précise, quoi. C'était
Mais on était aussi dans une période... Enfin, il y a eu quelques... Il y a 20 ans avant, il y a eu la bataille d'Hernani, notamment avec Victor Hugo, où justement, il y avait il y a Alfred de Musset aussi, que tu as cité dans de précédentes émissions. Il y avait un besoin de renouveau du genre littéraire en règle générale et une autre manière d'aborder la sexualité et la sensualité plus généralement dans les œuvres littéraires. Et donc, ces auteurs-là l'ont fait avec talent, mais ils ont aussi payé le prix fort.
Oui, ils ont payé le prix fort. Et pour certains, ils ont jouer avec les mots, hein, les jeux de la langue française pour dire ce qui était l'implicite et l'explicite, tout n'étant pas permis. Il y a vraiment de très très belles choses, hein, dans cette anthologie. Je rappelle le titre, ça s'appelle Héros émerveillé. Voilà, c'est très beau, c'est un peu épais comme bouquin, mais ça vaut le coup.
Et on ira vérifier sur Internet tout à l'heure, mais a priori, le poème de Jules Verne que tu nous as cité tout à l'heure, lui, par contre, n'avait pas été édité à l'époque, parce que sinon, il serait tombé sous le coup de la censure, justement, en 1855.
Voilà. Ah oui, et Loïc, qui nous fait signe aussi, qui nous rappelle un autre grand, tu sais, ils sont nombreux quand même à s'être donnés aux gens, mais Flaubert, hein, bien sûr. Loïc, tu as un micro, tu peux même nous le dire, mais bon, voilà, mais... C'est pas grave. On parlera de Flaubert la prochaine fois. Tiens, une très bonne idée.
Voilà, mais bon, là, on va pas voir que les chevilles, justement. On va pas s'intéresser qu'aux chevilles, mais aussi au corps tout entier des danseuses dont on va parler de l'art prochainement. D'ailleurs, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Osmose Radio. Vous êtes bien avec Laurence, avec Stéphane et avec Mélanie, aujourd'hui notre invitée, dans Erosmose, votre émission sur l'érotisme et la sexualité sur Osmose Radio. On est encore ensemble pour une demi-heure de papote et de musique et de thèmes un petit peu coquins, voire sulfureux.
Osmose. C'est l'émission qui ose.
Voilà, ça va être nos nouveaux jingles. Tiens, on te fera enregistrer. Tiens. Toi qui veux faire parler Loïc, c'est toi qui vas nous enregistrer un jingle tout à l'heure, nom de Dieu. Et donc, je précise aussi que vous pouvez nous rejoindre en direct si vous nous écoutez ce vendredi après-midi. Vous pouvez nous rejoindre en direct sur le Facebook d'Osmose Radio où on est diffusé en live grâce à la webcam qui est installée. Et donc, vous pouvez nous faire un petit coucou, nous laisser un commentaire sur la page d'Osmose Radio. Vous tapez Osmose Radio dans un moteur de recherche, vous tomberez dessus facilement, chers amis. Voilà, et donc ben, on va venir un peu au cœur du sujet dans cette émission d'aujourd'hui, à savoir la pole dance. Parce que ouais, c'est une idée qu'on avait eue en préparant cette nouvelle saison, Laurence. On s'était dit que dans la mesure où cette période de rentrée, c'est la rentrée pour les gamins qui vont à l'école, mais c'est aussi la rentrée pour les écoles de danse. Moi, je m'intéresse au tango, donc je suis un petit peu ça, mais dans des tas de genres différents.
Mais c'est sensuel le tango, c'est lascif le tango.
Et on en reparlera, oui, bien sûr, à une prochaine occasion, sans problème. C'est la rentrée aussi pour les écoles de danse et notamment l'Entrepôle Danse qui se trouve aux Angles, cette école où on peut apprendre des danses qui sont un petit peu originales. L'Entrepôle Danse qui est une des 200 écoles de danse répertoriées en France qui enseigne la pole dance, et vous vous y êtes inscrite, Mélanie. Alors, comment vous y êtes venue et depuis combien de temps vous prenez des cours là-bas ?
Alors, ça fait 2 ans que je suis à l'Entrepôle Danse. Comment j'y suis venue ? J'ai fait un travail sur moi avec des amis et on discutait parce qu'on faisait souvent les cours en soirée. Selon où on se retrouvait, il y avait une barre ou il y avait un podium. Et justement, à chaque fois, on faisait bien les cours dessus. Et un jour, ils m'ont dit, mais il faut qu'on fasse des cours. Mais c'était une boutade. Et puis après, moi, j'ai eu un accident en parcours de vie perso. Et fallait reprendre confiance en soi. Et du coup, on m'a dit, mais allez essayer. C'est lors d'un bilan de compétences, un psychologue du travail hein, qui m'a dit, mais vous savez que pour travailler votre confiance en vous, c'est très bien. Parce qu'on voit le côté sensuel, sexuel, exhibitoire. Alors que pas du tout, selon les figures, il faut quand même se tenir par rapport à la force de ses jambes, de ses
cuisses.
C'est
physique, c'est très physique. Hein.
C'est très physique, c'est très sur le gainage. Donc à la fin de l'année, on a des abdos en béton. Enfin, ça dépend, selon les apéros qu'on fait derrière.
On va y aller, Stéphane.
Voilà. Et non, il y a des figures où on se jette à l'arrière. On tient vraiment qu'aux jambes. Et si on lâche, celui qu'on lâche, mais ne serait-ce que 2, même pas 2 cm, on tombe. Donc du coup, c'est très, très physique. Et ça demande la confiance en soi parce que... partir à l'arrière, se jeter à l'arrière, on n'a pas l'habitude de le faire.
C'est pas déjà, quand on le plonge comme ça, là, en sautant à l'arrière à la piscine, c'est pas facile. Et donc, en quelque sorte, eh bien, vous avez repris la barre pour mener votre vie. Et finalement, vous avez commencé à danser sur le bar. Et puis finalement, vous avez fait de la pole dance pour vous accrocher à la barre. Si je peux me permettre de résumer ça comme ça.
Oui, on peut dire ça, oui. Et après, là où on est un groupe. Alors, on n'est que des filles. Maintenant, il y a des garçons, il faut savoir. Il y a 4-5 garçons.
Les garçons font de la pole dance aussi.
Et j'ai vu un gars ouais, pendant le Festival d'Avignon cet été, un sacré beau gosse, je suis obligé de le reconnaître, et qui effectivement était très gracieux en faisant de la pole dance.
Ouais. Ah, ils sont tout en muscles. Tout à l'heure, tu parlais de pilosité. Donc, bienvenue dans le monde des générations. C'est vrai qu'ils s'épilent. Mais en natation, ils s'épilent aussi, hein, les garçons. Donc, non, mais c'est vrai, parce qu'après, on peut danser à deux aussi sur la barre. Il peut y avoir des jolies chorégraphies à deux. Et donc, justement, l'an dernier, quand on a fait une représentation, il y avait un des garçons qui a fait une chorégraphie avec une fille. D'accord. Et donc, des fois, on le fait à deux. Des fois, on est tout seul, ça dépend. Et donc, c'est très joli. Mais voilà, c'est vraiment physique. Il faut avoir confiance en soi. Et après, ça muscle énormément plus qu'on croit. On sort de là, on a des bleus pendant une semaine.
Mais on y retourne la semaine suivante.
Voilà, on en redemande.
Comme le rugby, quoi.
Un bleu, c'est ça. Même pire qu'au rugby, je crois.
Et alors, c'est vrai que c'est curieux. Enfin, moi, je suis vraiment surpris que ce soit un thérapeute qui vous ait conseillé de faire ça pour votre confiance en vous. Mais du coup, je suis amené à m'interroger sur votre milieu professionnel et ce que vous faites dans la vie. Je ne veux pas poser de questions indiscrètes, rassurez-vous, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel est votre métier, en fait?
Je travaillais dans le social.
D'accord, parce que moi j'aurais cru que vous étiez avocate pour faire de la pole dance, comme ça vous auriez déjà été inscrite au barreau.
Elle est aussi un peu quand même,
c'est ça.
Voilà.
Oui.
Bon là vous n'êtes pas inscrit au barreau du tribunal d'Avignon en l'occurrence, mais vous allez vous faire l'avocate en quelque sorte de la danse à la barre. Et alors, vous vous êtes inscrite depuis 2 ans, mais l'école elle-même et les profs qui vous donnent des cours, elle en fait depuis combien de temps?
Alors, je ne saurais pas vous dire depuis quand Marie fait de la pole. Je pense que ça va faire une dizaine d'années, voire si ce n'est pas plus. Parce qu'avant, elle donnait justement des cours de salsa.
Et Marlène, c'est la professeure, elle a fait aussi de la danse orientale. Hein.
Oui, elle a fait la danse orientale, la danse classique. Mais Marlène, ça fait 1 an et demi qu'elle nous donne des cours. À la base, c'est Marie qui a ouvert sa salle depuis 5 ans. Et au fur et à mesure, elle crée des nouveaux cours, elle crée des nouveaux chronos. Parce qu'il n'y a pas que la pole dance, il y a aussi du hoop cerceau, du saut sexy. Il y a de la pole contemporaine. Et là, ouais, justement, c'est un homme qui nous donne le cours. Voilà, donc je ne sais plus son prénom, par contre, parce que je n'y vais pas tout le temps, moi, celui-là, le cours. Et donc, du coup, ils ont fait plein de dérivés. Et au plus ça va, moins on a de place, parce qu'on commence à être de plus en plus nombreux.
Et il y a un nombre limité de bars dans la salle, je suppose.
C'est ça.
Alors, comment sont fixées les barres? Est-ce qu'elles sont en acier ou en laiton? Parce que je sais qu'au niveau de la préhension, il peut y avoir des différences selon la texture de la barre et vous n'allez pas faire les mêmes exercices en fonction de ça.
Alors, elles sont en acier. Alors, en fait, il y a un socle et après, on les fixe au plafond. Donc, vous pouvez très bien avoir une barre chez vous parce qu'il y en a qui ont une barre à la maison qui s'entraîne chez elles selon la hauteur du plafond. Donc, il faut au minimum avoir 2 mètres de plafond, sinon vous ne pouvez pas. Et du coup, y en a au moins une dizaine. Donc après, en général, on tourne, on se met à 2 par barre. Parce que des fois, vous verrez, à force, on transpire, on glisse. Donc du coup, on met de la manique, des produits spécifiques pour ne pas glisser. Et on s'amuse pendant 1h30 et c'est sympa. On met de la musique tout le temps. Donc, on fait un bon échauffement et après des étirements. Parce que si on ne fait pas les étirements, je vous plains pour le reste de la semaine.
Voilà, j'ai eu l'occasion un petit peu de... comment dirais-je?
Tu pratiques aussi un peu, je crois.
J'allais poser la question. Non, j'ai pas pratiqué ça. J'ai beaucoup d'admiration pour les garçons qui le font. Et pour les filles, j'ai envie de dire que ça va de soi parce que c'est quand même une population majoritairement féminine qui s'intéresse à ça. Mais il y a quelques gars aussi, vous avez fait bien de le préciser. Et moi, on va revenir au côté un petit peu plus sensuel tout à l'heure, mais c'est vrai que ne serait-ce que le défi physique de tous les muscles que ça sollicite, des mouvements qui sont quasi acrobatiques que l'on vous voit faire, qu'on voit faire les danseuses dans ce genre de pratique, c'est vrai que ça m'a rappelé quelque chose que moi j'ai eu l'occasion de pratiquer quand j'étais plus jeune, c'était la capoeira, où effectivement les joueurs de capoeira, parce qu'on les appelle comme ça les joueurs, à la fois ont des mouvements acrobatiques qui demandent une maîtrise de son corps et une musculature, pas exceptionnelle, mais quand même une musculature qui soit bien en forme et bien rodée, et en même temps associée à ça la musique et associée à ça aussi une grâce qui tient à la danse en fait. Donc il y a à la fois le défi acrobatique et du muscle et musculaire, et en même temps il y a aussi une certaine grâce qu'il faut parfois acquérir, parce que certaines danseuses de pole dance en fait viennent plutôt du sport à vrai dire, plus que de la danse. Alors, et vos collègues autour de vous, elles viennent
de... enlever les a priori tout de suite justement. Il y en a, elles ne sont pas du tout sportives. Il y en a, elles sont très rondes, voire bien rondes. Mmh. Et elles sont beaucoup plus fortes que moi et plus à l'aise. Et elles nous font des figures où même moi, des fois, je n'y arrive pas encore.
Mais ça, c'est quelque chose qu'elles ont pu acquérir, non ?
Alors, il faut savoir qu'en pole dance ou même en sous-sexy, bon, on en parlera après, on fera la différence. Si on est vraiment assidu, qu'on y va une fois par semaine, puis souvent aussi, après, c'est mental, c'est très mental, on progresse très vite. Très, très vite.
D'accord.
C'est impressionnant. Moi, j'ai réussi à faire des figures que je ne pensais pas faire. Et en 2 mois, je les ai apprises. Et j'ai 2-3 collègues qui sont bien portantes. Et elles ont encore un niveau supérieur au mien. Il ne faut pas croire, il ne faut pas se dire qu'on arrive toutes super fines,
mais
bien
justement, gaulées. Moi, je voulais rebondir là-dessus. Donc, la pole dance, ça s'adresse absolument à toutes les morphologies féminines. Et quand on est un peu ronde, comme tu disais, et qu'on vient à la pole dance, on vient aussi dans un peu aussi, comme tu disais tout à l'heure, pour prendre confiance en soi, parce que le monde n'est pas forcément tendre pour les femmes et les hommes hein, qui sont ronds et qui sont souvent montrés du doigt ou mis un peu au banc. En plus, maintenant, on les diabolise encore plus parce qu'on les soupçonne de manger plus de gras que de gras. Elles viennent aussi, quelques-unes viennent aussi pour ça.
Ah oui, quelques-unes viennent pour ça. Quelques-unes viennent parce qu'il ne faut pas se mentir aussi, hein, ce qu'il disait tout à l'heure. La notion de j'ai envie de faire plaisir à mon mari, parce que des fois, il y en a, voilà, ils sont là-bas à la maison, ils s'amusent. Bon, pas toutes, hein, on est très peu. Enfin, moi, j'en ai pas.
D'accord.
C'est pas possible. Mais du coup, oui, il y a toute cette notion-là. Et après, c'est vrai qu'il y a des sites spécifiques pour acheter des tenues, parce que sinon, oui. On glisse sur la barre. Donc, du coup, on est tout en petit short, tout en petit...
Une petite brassière,
voilà, qui tient bien la poitrine, par contre, parce que...
Oui, parce qu'elle souffre, là aussi, la poitrine.
Et... Oui, mais après, voilà, et donc, il y a différents modèles, etc., soit plus échancrés, soit moins échancrés, et ça passe très bien.
D'accord. Et alors oui, tout à l'heure, je raisonnais par rapport à la grâce et par rapport à la danse. Je me disais, enfin, j'avais cru comprendre en préparant cette émission qu'il y avait des filles qui venaient plus d'un milieu sportif, qui avaient pratiqué la boxe, par exemple, puis les arts martiaux, et qui est venue à la pole dance comme ça, et d'autres au contraire qui venaient plutôt de la salsa, comme votre prof notamment, et qui avaient envie d'expérimenter quelque chose d'un peu plus musclé et aussi une danse qui ne soit pas forcément une danse de couple, une danse de bal, mais plutôt une danse qui se joue, une danse de performance sur scène en quelque sorte. C'est aussi pour ça qu'il y avait cette diversité, à mon avis, des origines et des intentions de celles qui pratiquent, qui prennent des cours de pole dance. Et vous m'avez précisé que notamment les filles un peu rondes, on les connaît, on peut voir à quel point elles peuvent être gracieuses, notamment dans la danse burlesque, les feuillages burlesques notamment. Et bien là, vous me l'apprenez pour le pole dance, c'est vrai que de prime abord, je reconnais que je ne l'aurais pas cru. Mais quoi qu'il en soit...
Sois pas de terre, tu réciteras.
Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Hein,
moi, oui, je reconnais, j'en ai aussi, moi, malgré tout, malgré ma bonne volonté. Et là, par contre, j'aimerais quand même rebondir sur un aspect. Les différentes intentions et les origines sociales de vos collègues que vous côtoyez dans vos leçons de pole dance. Parce que quand même, pour faire des danses qui ont une connotation un petit peu sulfureuse et qui sont rattachées, qu'on le veuille ou non, un petit peu au domaine de l'érotisme, en tout cas à l'imaginaire véhiculé par tout ça, il ne faut pas venir d'un milieu pudibond. Sans vouloir manquer de respect à nos compatriotes musulmanes, je vois mal une fille avec le voile faire du pole dance, si vous voulez.
Ce n'est pas très pratique. Si tu vas danser en hijab, il faut bien dire ce qui est, c'est que ça gêne un peu.
Je ne demande qu'à ce qu'on me donne tort. Hein. Ça fera un préjugé en plus qui tombera.
Oui,
mais en l'occurrence...
Et là, malheureusement, je ne peux pas vous donner tort. Mais bon, après, nous, on arrive, on se met en tenue, on se déshabille. Donc déjà, il faut avoir cet esprit-là. Après, c'est plus professionnellement parlant, on vient vraiment de tous bords. Il y a des profs, il y a... Mais quand je dis des profs primaires, collège, il y a des personnes qui travaillent à la CAF, d'autres qui travaillent à la Sécurité sociale, j'en ai d'autres qui travaillent dans les assurances, moi dans le social. Il y a aussi un cours pour enfants, il faut savoir.
Oui, mais ça on commence. Reste quand même dans un milieu presque cadre moyen quand même là. Tu nous cites des professions, des classes sociales, bah,
celles que je connais moi. Oui. Parce qu'après, d'accord. Je ne parle pas à tout le monde dans les cours. Enfin, on est quand même aussi, après, chacune dans notre coin, on parle, mais on n'est pas toujours tout ensemble. Donc, il y a un peu tout. Il y a des étudiantes, des non-étudiantes. Parce que bon, bah, c'est un coup aussi, hein, comme tout. Non, on vraiment mieux différent. Après, c'est vrai que là, je ne peux pas vous dire, ouais, une personne où aller, non, ça, c'est pas. Voilà. Après, par contre, s'il y en a une qui est de confession musulmane, mais qui n'est pas voilée et qui vient.
D'accord, bon ben voilà. Et par contre, c'est vrai que d'une personne à l'autre, selon les milieux familiaux, etc., on va en parler peut-être plus ou moins facilement, mais après, ça, c'est vrai que c'est des questions qui relèvent plus de l'intimité, c'est difficile de,
alors,
de communiquer dessus.
Alors, s'il y a vraiment beaucoup de préjugés, moi, c'est vrai que les premiers temps, hein, si je prends mon expérience à moi, je ne l'ai pas dit. Après, ils m'ont plus ou moins un peu plus traqué. Donc, mon petit frère m'a dit, mais ça ne m'étonne pas que tu en fasses, ça faisait des années qu'on en parlait. En plus, c'est une pote à moi qui donne les cours, donc je savais très bien que tu y viendrais. Et du coup, ils avaient plein de préjugés comme vous. Et puis, bah, à force que je leur explique, que des fois, il y a des stages, que des fois, je leur montre des vidéos, eh ben, les préjugés sont tombés. Bon, ils m'ont dit, ça reste quand même assez sexy, mais ils m'ont dit, c'est vrai que, ouais, on ne pensait pas que tu avais ce niveau-là en danse ou en gym.
Moi, je voudrais juste apporter ma petite pierre personnelle à l'édifice, parce que l'année dernière, j'ai failli faire un stage de pole dance qui n'a pas eu lieu. Il y a juste une chose qui m'a un petit peu... Marlène était absolument très sympa. Elle m'a dit que l'âge, ce n'était pas du tout un handicap. Au moins, quand on est en condition physique à peu près correcte, hein, c'était un stage d'initiation, on n'allait pas faire des tourbillons. C'est juste, je me suis dit, je n'ai jamais fait de pole dance. Je n'ai pas d'espèce de pudeur grave, mais quand même, j'en ai un peu. Et l'idée, c'était de fêter le printemps et d'arriver en petite tenue. Donc, moi, je ne me sentais honnêtement pas prête, en tous les cas à mon âge, d'arriver avec les danseuses de pole dance en slip et en soutien-gorge. Donc, ça m'a légèrement gênée aux entournures. Mmh. Je tenais à le dire, puisque bon, je pense que j'aurais préféré qu'on me dise de venir m'initier avec un lycra, un pantalon de danse, une brassière. Là, l'idée de fêter le printemps, je le comprenais très bien, mais ça m'a un petit peu...
Alors, si tu fais, voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, si tu sors une figure qu'on veut faire à la barre, tu ne peux pas avoir le leggings, on glisse.
Oui, mais je comprends mieux maintenant. Mais ouais. J'étais peut-être pas prête non plus à venir en soutien-gorge.
Après, il y en a qui sont venus. On avait des shorts. Moi, les premiers temps, j'avais des shorts jusqu'à mi-cuisse. Bon, je les remontais selon les figures, donc ça me faisait encore plus mal que les autres.
Plus les hauts talons quand même, parce qu'il y a des hauts talons.
Alors ça, c'est
pas
différent.
Toujours.
C'est
mais pas... parfois, ça arrive. Ouais.
C'est pas la pole là. Là, c'est pas
on parle d'autre chose. Mais justement, Laurence, tu avais creusé un petit peu le sujet parce que si on associe la pole dance à l'érotisme, souvent, et à la danse au striptease qu'il peut y avoir dans les cabarets, notamment burlesques, eh bien, c'est aussi pour des raisons très précises qui tiennent un peu à des raisons culturelles, sociales et notamment historiques. Et tu nous as fait un petit peu, tu as creusé l'historique de ce mouvement culturel, de cette danse-là, en fait.
Oui, oui, parce que je voulais dire qu'on voudrait nous faire croire que c'est une occupation sociale consistant à secouer son corps en rythme sur la musique. Foutaise, la danse n'est évidemment qu'une activité érotique en bonne et due forme. Donc je vous ai pêché des petites choses. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous les citer. Il y a 10 révélations intimes sur les rapports étroits de la guinche et du sexe. Mais par exemple, si je te dis que la valse fut la tournante des siècles passés, dire ça. Hein. La valse dont la mode partit de Vienne à la fin du XVIIIe siècle causa en son temps d'immenses scandales. Jusqu'alors, on dansait en ballet, en ne se touchant que par la taille ou les mains. Mais avec la valse, l'homme pouvait impunément sentir les seins de la femme, le frôler et se presser contre son torse. Elle a son pucelage, moins la valse, disait-on d'une demoiselle qui tournait un peu trop. Cette danse du démon, donc, fut formellement interdite par l'Église aux religieux. C'est la Révolution française qui l'a répandue dans toute l'Europe grâce à des progrès techniques, la banalisation des parquets en bois et de la chaussure en cuir à la place des sabots qui popularisèrent un pas glissé. Sinon, je peux aussi vous dire que le premier striptease date de la Bible, hein, parce que quand même la première stripteaseuse, eh bien, on la trouve dans la Bible. C'est la princesse Salomé, dont tu parlais tout à l'heure, qui danse devant son beau-père, le roi Hérode, à qui elle réclame pour récompense de ses effets ondulés la tête de Jean-Baptiste, coupable d'avoir critiqué sa mère. La dite tête lui sera livrée décapitée sur un plateau et le détail scabreux des sept voiles que la danseuse ôte l'un après l'autre n'existe toutefois pas dans les évangiles de Matthieu et de Marc, mais fut ajouté par les écrivains et les peintres au cours des siècles qui suivirent. D'ailleurs, tout à l'heure, on va parler de peinture. Donc, oui. je peux vous citer encore deux, trois petites anecdotes si on a deux minutes.
Mais je t'en prie.
Je ne sais pas, moi, bon, j'ai appris aussi que le grand écart pouvait déchirer l'hymen. Oui, la rupture de l'hymen ne signifie pas forcément pénétration par un pénis. L'hymen peut subir un déchirement après un traumatisme, un grand écart par exemple. Ce n'est pas une vieille légende urbaine que nous colportons, mais le docteur Jean-Louis Séchaud qui l'affirme, l'un des spécialistes français de la reconstruction chirurgicale de l'hymen. J'en profite pour saluer le prix Nobel qu'on a couronné cette semaine. La semaine dernière. Je vous salue, monsieur. Les jeunes danseuses classiques qui se déflorent ainsi toutes seules restent néanmoins vierges, puisque le petit Robert définit ainsi la virginité, état de quelqu'un qui n'a jamais eu de rapport sexuel avec pénétration.
Oui, et puis enfin, la excuse-moi, dernière... mais le petit Robert, à son âge, que peut-il savoir de la sexualité ?
C'est vrai, t'as raison, le petit Robert, j'arrive pas à
penser
à ça.
Sacré petit Robert.
Et puis, j'aime beaucoup celle-ci, Rudolf Valentino, qui précéda Patrick Swayze de quelques décennies. Si la scène de danse du film Dirty Dancing de 1987 avec Jennifer Grey et le regretté Patrick Swayze reste dans bien des mémoires féminines, elle ne fut de loin pas la première du cinéma à susciter de tels émois. En 1921, Rudolf Valentino, sexe symbole du muet, devint une star du jour au lendemain grâce au tango qu'il dansait au début des Quatre Cavaliers de l'Apocalypse de Rex Ingram. Déguisé en gaucho de la pampa avec couverture jetée sur l'épaule et chapeau à large bord maintenu sous le menton par une ficelle, il y effectue, pressé contre une prostituée des bas-fonds de Buenos Aires, un frotti-frotta dont la lascivité étonne encore 90 ans plus tard, messieurs, prenez-en de la graine. Performance d'autant plus remarquable que le film, rappelons-le, était muet, sans autre musique que celle jouée dans chaque salle par un pianiste différent, généralement ivre. Voilà. Et en anglais, on ne dit pas « slow », parce que pratiqué dès la boum à l'adolescence, le slow a pour fonction principale de permettre aux jeunes filles délurées de découvrir la sensation d'un pénis en érection contre leur abdomen. Cette danse ne les fera en revanche pas progresser en anglais. À Londres, comme à New York, on dira plutôt « a love song », voire « a slow dance », mais jamais « a slow », tout court, ce qui voudrait juste dire un long. Voilà. Et puis évidemment, un danseur hors pair ne fait pas forcément un bon amant. Tenez à le rappeler.
Oh, un bon danseur fait un amant sympa, mais ça peut faire, un bon danseur peut aussi faire un amant furtif, d'après les confessions que j'ai pu avoir.
Ben, dans une prochaine émission, on dira aussi qu'est-ce qu'un bon amant.
Voilà. Hein, zut, bah ce sera une émission qui fera sans moi. Mais,
mais
c'est vrai que on parle des danses. Là, tu parlais des danses de couple, mais c'est vrai qu'un danseur de pole dance, comment est-ce un bon amant ? C'est vrai que là, c'est une question. Mais en même temps, qu'il n'y a pas beaucoup de danseurs de pole dance, mais celui que j'ai eu l'occasion de voir danser, c'était sous un cirque. En l'occurrence, les bars des chapiteaux étaient les premières bars qui ont servi à la pole dance, en fait, comme tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Les origines de ce mouvement-là, et eh bien en fait sous chapiteau, donc j'ai vu cet été au Festival d'Avignon danser un danseur de pole dance, le mec c'était un Apollon, c'est clair,
et ça l'a complètement émoustillé.
Il était très gracieux, et c'est vrai que là, c'est clair que je supporte pas la comparaison. Enfoiré, va.
Tu veux pas aller prendre des cours à Villeneuve alors?
Pas moi en tout cas, mais je suis déjà occupé par ailleurs. Mais c'est vrai que la pole dance a véhicule tout cet imaginaire là qui tient des raisons historiques assez évidentes, comme tu viens de le rappeler, et on peut pas s'empêcher de faire le rapprochement entre danse burlesque et pole dance notamment, parce que dans les films américains notamment, on voit toujours des stripteaseuses qui se font mettre des billets dans la culotte en se trémoussant autour d'une barre sur un podium dans un cabaret miteux du fin fond du Tennessee.
Alors je voudrais rectifier quelque chose au passage, dans les films la culotte elle est réduite à sa plus simple expression, c'est quand même plus souvent un truc genre string qu'un petit bateau en coton d'Égypte, hein.
Et comment dit-on string en anglais des États-Unis justement, parce que ça voudrait dire ficelle, juste. Voilà. Tiens, puisqu'on parle de cinéma, tu parlais de Patrick Swayze tout à l'heure, je fais une digression moi aussi. Il est à l'origine d'une des plus belles répliques du cinéma qu'aurait peut-être pu faire Rudolph Valentino s'il y avait eu le cinéma parlant à son époque. C'est Johnny, arrête de courir après ton destin comme un cheval sauvage. Et toutes les gamines du début des années 90 se sont pâmées devant ça.
Ah, parce que c'est Johnny, Johnny, fais-moi mal.
Ah oui, mais là, on parle d'autre chose.
On parle d'autre chose.
On parle de Boris.
Nous, on a plus retenu, on ne laisse pas bébé dans un coin.
Voilà. Quoi qu'il en soit, eh bien donc, y a différentes danses qui tiennent un petit peu à cet imaginaire érotique, qu'on le veuille ou non. Et la pole dance en est une notamment, qui prend son essor en France depuis une bonne dizaine d'années, et notamment dans la région avec l'anthropole dance qui se situe aux Angles. Pour autant, il y a bien d'autres danses, notamment, je parlais de la danse burlesque, qui elle aussi fait l'objet d'une démocratisation entre guillemets, puisque beaucoup de filles, des filles normales, hein, pas des filles de mauvaise vie comme le voudraient les préjugés des gens mesquins, des filles normales ont envie de se mettre à la danse burlesque, soit pour se faire plaisir à elles, comme je le disais tout à l'heure, les filles rondes peuvent y trouver aussi une forme de confiance en elles, ce qui est une très bonne chose à mon avis.
Et de lâcher prise.
Oui, sans doute aussi, j'avais pas pensé à ça. Et quoi qu'il en soit, on pensait aussi donc la danse burlesque, la pole dance, et il y en a aussi bien d'autres formes que je ne connais pas forcément et sur lesquelles vous pouvez nous éclairer, Mélanie.
Je vais parler de l'expérience que j'ai à l'anthropole, ce que Marie a fait. Donc elle a créé, en fait, il existe le hoop cerceau, elles appellent ça. Donc en fait, on n'a pas une barre, on a un cerceau qui est suspendu comme au cirque et on fait des acrobaties à l'intérieur et on fait au bout d'un moment un enchaînement de figures. Là, pareil, on progresse très vite, en 2-3 mois, on arrive à faire 4-5 enchaînements quoi, de figures.
Jambes tendues, c'est ça avec des jambes.
Alors, pas forcément jambes tendues, non, parce qu'il faut arriver à se tracter déjà sur le cerceau. Après, on plie, on s'enroule autour du cerceau, ça dépend. Donc après, c'est vrai que oui, ben, ça ressemble à la danse parce qu'à chaque fois, la professeure, elle dit « pointez, pointez ». Et c'est vrai que dès qu'on pointe, ça fait beaucoup plus. Tout à l'heure, tu parlais de grâce. Ça fait, quand on se filme pour voir nos progrès, ça fait beaucoup plus gracieux quand on voit qu'on tient bien sur les pointes, qu'on arrive à enchaîner les mouvements.
Ça, le cerceau, c'est quand même une discipline très circassienne. Hein. On la trouve aussi sous les chapiteaux.
Donc elles appellent ça le hoop cerci parce que pareil. Bon, là, on est en leggings par contre. Voilà, on peut être après des fois en petit body, mais on est guise. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On avait le fly yoga. Donc là, en fait, c'est du yoga, mais dans un tissu. Donc pareil, on fait à peu près des figures, mais là, c'est dans un tissu.
Dans un drap, tu veux dire ?
Oui, un drap qui est suspendu et on fait en fait des figures à l'intérieur. Et puis après, au bout d'un moment, on s'enferme même à l'intérieur. Donc pareil, c'est un dérivé de la pole puisqu'on fait certaines figures. Et après, le dernier qu'on fait, donc, ça s'appelle de la sauce sexy. Donc là, c'est pareil, on danse avec la barre, mais on est plus un petit peu à terre. On va monter un petit peu sur la barre, mais très peu. C'est plus autour de la barre et avec des talons. Donc avec des talons, là, comme on dirait, oui, la vraie connotation, parce que c'est des gros talons qu'on commande des fois sur les sites. Ou alors, on peut avoir très bien un talon aiguille qu'on met tous les jours. Mais sauf qu'il faut qu'ils nous tiennent au niveau de la cheville.
Des semelles très compensées sur la.
Alors, pas toutes, Laurence.
Pas toutes, parce que je trouve ça assez laid. J'en profite pour le dire, mais bon, c'est pas grave.
Ça.
Mais ça, c'est là aussi, il y a une question d'imaginaire, parce que c'est ce que portent les actrices porno dans les productions américaines, notamment.
Alors, oui,
c'est peut-être pour ça que tu fais le rapprochement, non ?
Là, on a surtout ça.
Non,
parce
c'est purement esthétique.
Ouais, il faut que ça. Nous, c'est pas esthétique. Moi, je m'en fous qu'elle soit moche, mais c'est juste pour qu'elle me tienne la cheville, parce que. Avant, j'avais des talons aiguilles que je mettais dans la vie tous les jours, mais ils ne me tenaient pas la cheville. Et s'ils ne te tiennent pas la cheville, selon la corée que tu fais, tu te fais très mal.
Oui, ce n'est pas un endroit du corps où il convient de se faire de bobo, effectivement. Un autre truc, alors vous disiez que c'était l'assaut sexy, en deux mots. Hein.
Mm.
D'accord, parce que moi j'avais compris de prime abord l'assaut sexy. Je pensais que c'était la danse sur laquelle se trémoussaient les cowgirls de Playboy, non ? C'est voilà, le lasso sexy. Ça pourrait être une possibilité intéressante d'ailleurs. Il faudrait le proposer à l'anthropole danse.
On verra avec Marie.
Voilà. Et alors, ça fait 2 ans que vous pratiquez ça, donc en variant les plaisirs, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Vous avez mis un petit peu de temps à en parler autour de vous, mais vous l'assumez complètement, puisque vous êtes là aussi pour nous en parler. Comment vous envisagez à l'avenir de continuer à pratiquer ça, ou en évoluant, et comment vous vous projeter dans l'avenir par rapport à la pratique de cette danse-là ? Parce que tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas de barre chez toi. Effectivement, c'est un investissement. Ensuite, ce n'est pas une danse qu'on peut aller danser tous les samedis soirs pour faire la fête, etc. C'est plutôt une danse qu'on prépare pour le spectacle de fin d'année, je suppose, notamment.
Alors, on n'a pas de spectacle de fin d'année. On peut faire une représentation, mais ce n'est pas obligatoire.
D'accord.
Non, moi, c'est plus pour moi, c'est plus personnel, parce que on est plusieurs dans ce cas-là, on a envie de se défouler. Puis après, on s'est créé un groupe, on est certaines à venir aux mêmes horaires, donc ça nous plaît de se retrouver et de s'entraider, et ça nous défoule. Voilà, donc ça sera plus dans ce thème-là que d'aller dans une soirée et danser, quoi.
Bien. Et est-ce qu'il y a aussi des disciplines qui sont peut-être pas encore actuellement à l'entrepôt, mais genre striptease, peut-être pas striptease.
Alors
mais
les feuillages,
c'est ça, les feuillages.
Alors non, elles donnent pas des cours. Par contre, ce qu'elles organisent, Marlène et Marie, qui ont revenu de son congé maternité, elles organisent des petits stages sur des dimanches, sur des temps informels dans l'année. Elles organisent une danse des feuillages. Donc là, c'est la chaise. On fait une danse autour de la chaise.
Okay,
et là, c'est vrai souvent, on nous demande de mettre une chemise. Et au fur et à mesure, on enlève la chemise. On apprend un petit peu.
D'accord. Et la température n'arrête plus de monter.
C'est
Donc c'est bien. On peut refaire ça le soir à nos fiancés.
Il y en a, elles viennent pour ça. Parce qu'au début, elles l'avaient initiée juste pour la Saint-Valentin. Et puis maintenant, elles en fait 2-3 dans l'année parce qu'elles se rendent compte que ça nous plaît et qu'on rigole et qu'il y a du monde qui en demande. Donc, il y en a qui ont testé auprès de leur mari, il y en a qui n'ont pas du tout testé. C'est juste pour nous, pour passer un temps entre nous, rigoler,
pour le plaisir de la danse.
C'est ça. Parce qu'il y en a, elles ne sont pas du tout avec nous dans l'année. Elles viennent au stage et justement, on fait en sorte d'avoir une chorégraphie qui est très simple.
Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Alors, on ne saurait que proposer aux auditrices éventuellement qui nous écoutent de se renseigner. Hein, ce n'est pas compliqué. Il faut prendre contact auprès de la prof qui s'appelle Marlène, c'est ça?
Alors, il y a Marlène et Marie. En fait, vous allez sur le site internet, vous tapez l'Anthropole Dance aux Angles et vous avez toutes ses coordonnées, ses numéros de téléphone ou alors vous pouvez envoyer un mail.
D'accord. C'est très sympa, Marlène, hein, je vous dis.
Et les cours ont lieu à quel soir de semaine?
Alors, il y a tous les soirs de la semaine, il y a entre midi et deux, et il y a même des fois des matins ou après-midi. Ça dépend de planning.
Voilà, et l'école se situe aux Angles, à côté du centre Leclerc, je crois. Non,
c'est ça, derrière le drive Leclerc, à côté du restaurant Le 119.
Bien. Eh bien, merci en tout cas, Mélanie, d'être venue nous parler. Décidément, ces portables qui nous font des petites coquineries pendant l'émission, qui viennent nous titiller les micros. En tout cas, ne sauront pas m'empêcher de vous remercier d'être venue nous parler de pole dance dans l'émission. C'est vrai que c'était un sujet qui nous tenait à cœur, surtout en cette période de rentrée, où les écoles de danse, en règle générale, et celles où vous prenez des cours en particulier, font leur rentrée. Alors, quand bien même on arriverait avec quelques semaines de retard, je pense que les postulantes, entre guillemets, pour utiliser ce terme-là, n'auraient pas trop de difficultés à rattraper le retard pris par les autres élèves.
Alors pas du tout, parce que c'est des entrées sorties permanentes. En fait, on prend une carte et moi, il y a des semaines où j'y vais pas parce que je suis en déplacement et c'est pas grave, j'y vais la semaine d'après. Donc c'est pas gênant.
Justement, on nous posait la question sur le live Facebook, le prix de la carte est à combien en fait?
Alors, il n'y a pas d'adhésion. En fait, on achète soit 5 cours, soit 10 cours, soit 20 cours, ça dépend. Et tous les tarifs sont mis sur le site. Je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas en tête.
Merci de l'intervention, Loïc. Merci, ma petite Mélanie.
Mais de rien.
Merci aussi à ceux qui nous suivent, qui sont en train de nous regarder sur Facebook, qui posaient des questions comme celle qui vient d'être citée par Loïc. Vous êtes assez nombreux, donc c'est assez sympa. Et de toute manière, pour ceux qui ont pris l'émission en cours, vous pourrez retrouver l'émission complète, évidemment, dans la rubrique podcast du site osmos-radio.fr. On va continuer avant de conclure cette émission. J'avais envie de parler, puisque je vous disais tout à l'heure que j'étais passé à Berne pendant mes vacances. J'ai eu l'occasion de repenser à une exposition que j'avais vu au Kunstmuseum de Berne, c'est-à-dire le musée des Beaux-Arts, l'an dernier, en fait, puisqu'il faisait chaud en cette période estivale à Berne, j'avais repensé à un tableau qui m'avait fait une forte impression, à une exposition que j'avais vue là-bas au musée des Beaux-Arts de Berne en 2017. C'était un tableau d'un peintre suisse qui s'appelle Félix Vallotton et dont je vais vous parler tout de suite. Alors, c'est un peu bizarre de parler de peinture à la radio.
Je vais vous montrer le tableau en question.
Voilà, si vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez voir à la webcam, notamment Laurence qui vous montre le tableau dont je vais vous parler tout de suite, qui s'appelle La Blanche et la Noire, et qui a été peint en 1913 par Félix Valenton. Alors un garçon, qui, là c'était un petit peu sur la fin de sa vie, puisqu'il était né en 1865, il est mort en 1925. Et un garçon, alors un peintre suisse qui s'était établi en France à partir de 1900. Donc on peut considérer qu'il était déjà largement bien inséré dans la société française à ce moment-là. Et Félix Valenton qui peint ce tableau qui s'appelle La Blanche et la Noire. Alors de prime abord, c'est un tableau, enfin c'est un titre un petit peu bizarre. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. On pense à deux blanches pour une noire, comme en musique par exemple. Et en fait, pas du tout. C'est un tableau qui est conservé en fait à Winterthur, mais qui a voyagé un petit peu. Winterthur, c'est là où se trouve la fondation qui conserve et qui expose la plupart des œuvres de ce peintre-là. Mais le tableau a voyagé un petit peu. Moi, je l'ai vu à Berne lors d'une exposition l'an dernier. Il a aussi été exposé à Paris en 2013. Donc, peut-être que certains auditeurs avaient eu l'occasion de découvrir cet artiste-là à ce moment-là. Pour ma part, c'est un artiste que j'avais redécouvert parce que sur Internet, j'avais déjà vu certaines de ses œuvres, notamment des œuvres monochromes, des xylographies, en fait, c'est-à-dire des gravures sur bois, et où j'avais pu voir un petit peu son attrait pour l'érotisme à cet homme-là, et aussi son attrait pour l'humour noir, parce qu'il y a quelques illustrations, des fois, qui sont un petit peu... qui sont non seulement coquines, mais qui en plus font preuve d'un humour un peu macabre, genre Roland Topor, pour faire une comparaison, si vous voulez. Et donc, Félix Valenton, c'était un peintre en fait, qui était né en Suisse, du côté de Lausanne, dans un milieu de la bourgeoisie protestante, comme c'est très courant là-bas. Et il s'est très vite intéressé à la peinture. Enfin, dans un premier temps, il a fait de la xylographie, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, il avait des capacités d'artisan assez balèzes. Et très vite, il a eu l'impression de faire le tour. Il s'est intéressé à la peinture et comme tous les peintres de l'époque, il a fait le voyage en France. Il a fait une académie de beaux-arts à Paris. Et faut dire aussi qu'il s'illustrait donc à partir des années de la fin du XIXe siècle. Et les artistes étaient passés déjà un petit peu à autre chose qu'à l'impressionnisme à ce moment-là. Et donc, il y a plein de courants qui se sont développés, mais qui tenaient plus forcément lieu de l'impressionnisme à proprement parler. Et donc, il y a au début du XXe siècle, par exemple, il y a eu le fauvisme avec Matisse, par exemple, et les artistes étaient passés un petit peu à autre chose. Voilà le contexte dans lequel s'est produit ce tableau, donc en 1913, La Blanche et la Noire, que Laurence vous montre à la webcam, et que je vais vous décrire maintenant. Alors, c'est un trait assez réaliste, hein, comme je vous disais que l'impressionnisme n'était plus forcément de mise, en tout cas pas systématiquement, puisque c'est un trait réaliste parce que ce Félix Valenton, comme je vous le disais, avait une dextérité d'artisan, puisqu'il avait fait de la gravure sur bois, mais c'était aussi, je pense, un peu à son tempérament qui venait de son milieu social, hein, et, la bourgeoisie protestante, calviniste suisse.
Très, c'est parfois, beaucoup de rigueur. Hein.
C'est des
très
gens...
Très rigoriste et très... Oui,
ouais, la religion calviniste est assez rigoriste. Donc, c'est une supposition de ma part, mais je pense que ça tenait aussi à son tempérament. Et parfois, il y a même une précision quasi photographique dans son coup de dans cette peinture à l'huile dont je vous parle aujourd'hui. Un tableau qui est assez grand d'ailleurs. Il fait 120 cm sur 150. Donc, il vous gaule bien les yeux quand vous êtes en face quand même. Et je vous donnerai des liens pour que vous puissiez le voir sur Internet. Alors, c'est un tableau que je vais vous décrire tout de suite qui vous évoquera peut-être d'autres références. Vous avez deux femmes... L'une endormie et l'autre assise sur le rebord du lit. La femme blanche est endormie et est étendue sur le lit. Et une femme noire est assise à côté et la regarde, est assise sur le bord du lit et elle la regarde. Et déjà, ça crée une perspective parce que la femme noire assise est au premier plan et elle regarde donc la direction de son visage nous invite à regarder dans la même direction qu'elle. Et on voit la dame qui est alanguie sur le lit et qui est d'une blancheur quasi virginale à quelques détails près en comparaison à sa collègue noire, bien entendu. Et donc déjà, ça donne un effet de perspective qui est en plus rehaussé par les couleurs qui sont utilisées dans ce tableau. Il y a un fond vert, un genre vert pomme en quelque sorte, qui est en fait la couleur du papier peint de la pièce dans laquelle elles sont, puisqu'il s'agit d'une scène intérieure dans une chambre. Et en fait, ce fond vert qui pourrait un petit peu parasiter les autres couleurs, en fait, a tendance à les rehausser et ça crée un décalage entre la couleur de la blanche, la couleur de la noire et ce fond qui évoque un petit peu qui évoque des couleurs a priori verdoyantes, les couleurs de la végétation, et qui donne aussi un côté un peu, je vais pas dire surnaturel, puisque je vous disais tout à l'heure que Valenton, c'était un peintre réaliste. Mais en attendant, il y a beaucoup de gens qui décrivent ces deux créatures comme des sylphides, en quelque sorte. sorte, vous savez, les esprits des forêts. Ouais. Et ce vert a un peu tendance à créer une atmosphère intimiste, qui est aussi celle de la chambre dans laquelle elle repose. Une atmosphère intimiste qui est celle de la couleur des sous-bois quand on va se promener par ces belles journées d'automne, par exemple, on va se promener dans la garrigue. Voilà. Et donc, tout ça crée un contraste assez fort. Voilà pour la description. Et donc, vous avez une femme allongée, une noire à côté.
Qui semble fumer quand même.
Elle a la clope au bec, effectivement, la noire. Et donc, tout ça vous évoquera peut-être d'autres références de la peinture du XIXe siècle, même sans avoir une culture énorme sur le sujet. Hein. Vous aurez sans doute pensé à l'Olympia de Manet, qui est un tableau qui, lui aussi, sous le coup de la censure, avait fait un grand scandale quand il avait été exposé dans les années 1860-1870, parce qu'il représentait un nu, mais sans l'excuse mythologique. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait une hypocrisie dans la peinture académique. Vous avez dit, j'ai dit peint-cul, décidément. Mais il y avait beaucoup de peigne-cul à l'époque. Et il y avait une hypocrisie dans la peinture académique qui voulait qu'on représente beaucoup de nus, de beaux corps de femmes dénudées. Mais c'était toujours des déesses ou des personnages mythologiques, Aphrodite, machine, tout ça. Et donc, les bourgeois allaient dans les musées, dans les expos, se rinçaient l'œil, mater des culs, hein, puisqu'il s'agit de ça. Mais à chaque fois, avec cette excuse que, ah oui, mais attention, c'est la déesse Vénus, donc ça va. Ah oui, mais attention, c'est l'enlèvement de robe, donc c'est bon, quoi. Et en fait, là, Manet avait fait très fort en exposant une prostituée dans toute la crudité de son corps sans grâce et de sa nudité beaucoup d'hommes avaient vu avant vous, le spectateur, de ce tableau. Et donc, ça avait fait un tollé. Et Manet, notamment, avait marqué l'histoire de la peinture grâce à ce tableau Olympia. Mais ça évoque aussi le tableau de Félix Zolotan que je vous décrivais à l'instant, évoque aussi les odalisques du début du XIXe siècle. On pense à Delacroix ou on pense à Ingres aussi, notamment.
Le violon, la spécialité d'Ingres.
Ah, je sais. Alors, est-ce qu'il a peint un violon? Je ne sais pas. En tout cas, il avait, comme l'autre, il avait aussi autant de plaisir à le peindre qu'à l'entendre. Et en tout cas, moi, quand j'ai envie de vous parler de ce tableau-là, crois bien que je n'ai pas l'impression de vous pisser dans un violoncelle.
je rappelle quand même que le corps de la femme, c'est quand même un peu un joli violon. Hein.
Et tu fais bien de le préciser, justement, parce qu'on voit bien les courbes féminines des corps, en l'occurrence, que peint Félix Zolotan dans ce tableau.
Ouais, la blanche. Qui disent ouais, il faut que l'homme soit un beau musicien pour que la femme soit un joli instrument.
Mais bien sûr, que les cordes.
D'où retombe sur le violon d'Ingres, effectivement. Voilà. Et Ingres qui représentait certaines de ses odalisques, je ne sais plus si c'est Delacroix aussi Ingres, autant pour moi, avec une esclave noire à côté de la femme orientale. Donc voilà, on a ces deux personnages se retrouvent aussi dans des peintures qui ont été faites 100 ans auparavant. Bref, et donc. Ce tableau que je viens de vous décrire, donc la blanche et la noire, la blanche qui est alanguie, qui est étendue sur le lit, au drap froissé, et la noire qui la regarde à clope au bec, eh bien, ce tableau que je viens de vous décrire crée une perspective, utilise un contraste de couleurs assez fort, et là, il nous laisse un petit peu en plan, parce qu'on ne sait pas à quoi on est en train de... qu'est-ce qu'on est en train d'observer. Parce qu'il y a une question d'interprétation dans les tableaux de Zolotan. Il laisse toujours un petit peu la situation en suspens. Et tout d'abord, quand j'ai fait face à ce tableau, j'étais charmé par les couleurs, par la beauté et les courbes féminines de cette femme. Donc j'ai été un petit peu sous le charme. Puis ensuite, il y avait quand même une tension dans ce tableau, une tension qui tient un peu au regard de la noire sur la blanche et à certains détails du tableau que je vais vous décrire tout de suite assez rapidement. Ce qui fait qu'il y a deux temps dans l'observation de ce tableau. Alors, on sait que je vous disais, ouais, il y a une tension entre ces deux femmes, et on ne sait pas trop à quoi ça tient, et on ne sait pas trop à quelle scène on assiste en fait. Ces deux femmes, finalement, qui sont-elles? Est-ce que c'est une bourgeoise et sa servante noire? Est-ce que c'est quelque part dans les colonies une femme qui se serait établie et qui aurait pris du personnel de maison? Est-ce que c'est dans un bordel? Est-ce que c'est deux prostituées qui prennent un petit peu de repos? On ne sait pas, finalement. Mais en fait, il y a quelques détails qui laissent deviner, qui suggèrent, mais sans jamais l'exprimer franchement, qu'en fait, on a tout simplement affaire à une scène d'amour saphique, une relation lesbienne, voilà, entre deux femmes, tout simplement. Et là, on a l'occasion de voir leur nid d'amour. Alors, qu'est-ce qui nous laisse deviner ça? Ben, c'est que la noire, par exemple, elle a un peu une allure de bonhomme, elle a la clope au bec, comme ont certains gars après l'amour. Elle est habillée, donc elle a revêtu un petit fichu, comme le font parfois les Africaines, sur ses cheveux.
Ou les Antillaises aussi. Hein.
Ou les Antillaises. Ouais, t'as raison, c'est plus la mode antillaise, là, autant pour moi. Et elle a les mains très, très soignées, mais qui sont reposées sur ses genoux, et elle regarde la femme blanche qui dort. Et la blanche, en l'occurrence, elle est sur un lit au drap froissé. Elle a son corps, donc c'est une vraie rousse. Hein, la façon dont on distingue son pubis ne laisse aucun doute à ce sujet. Elle a les tétons qui pointent. Et elle a les joues empourprées, son petit visage laisse deviner qu'elle a connu un effort ou un orgasme intense un petit peu quelques minutes auparavant. Quoi.
Bah, on lui souhaite l'orgasme plutôt que l'effort. Hein.
Bah, les deux peuvent aller ensemble.
Oh, oui. Oui.
Bah oui, oui, puis on me dit, on parle toujours de muscler son périnée. Hein.
C'est vrai.
Et donc voilà, et donc tous ces détails nous laissent deviner qu'il s'agit d'une relation, d'une scène après l'amour, d'une relation lesbienne. Et en l'occurrence, que ce soit la femme ou le noir ou la femme blanche, toutes les deux sont des filles qu'on pourrait croiser dans la rue. En fait, c'est des filles normales. Elles ont pas, il y en a une, c'est pas l'une la Vénus de Milo et l'autre une beauté africaine fantasmée. Pas du tout. C'est des filles de tous les jours qu'on pourrait croiser. Sauf que là, elles sont un peu dans une scène qui tient à leur intimité. Donc, à l'époque où Félix Vallotton a sorti ce tableau en 1913, eh bien, il n'a pas fait scandale comme l'a fait l'Olympia de Manet 50 ans avant, mais parce que les mœurs déjà avaient évolué à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une tension dans ce tableau qui est assez mystérieuse, bien que Vallotton soit un peintre réaliste, et qui m'a beaucoup intrigué. Ce tableau, j'y pense assez souvent, en fait, et pas seulement parce que c'est un tableau nu et que je suis un obsédé du zizi sexuel. Non, non, non. Et en fait, pour conclure, Félix Vallotton, j'ai lu quelque part dans une critique que c'était le peintre de l'incommunicabilité, parce que dans d'autres œuvres, effectivement, que j'avais vues avant, certaines de ses gravures notamment, eh bien, on voit toujours des personnages qui sont côte à côte, mais qui ne se parlent pas, parfois ne se regardent pas. On sent qu'ils ont du mal à se dire les choses. Et c'est vrai que ce genre de malaise, Félix Vallotton savait les exprimer dans ses peintures, et c'est aussi sans doute pour ça que parfois il utilisait tantôt l'érotisme et tantôt l'humour noir. Voilà. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu le tableau correctement à la webcam à l'instant, je vous mettrai des liens pour que vous puissiez le voir sur le Facebook d'Erosmose, facebook.com/Erosmose. Voilà, chers amis.
Alors, juste avant, je voudrais juste dire une toute petite chose, Louis. Comme ce tableau plaît beaucoup à notre ami Stéphane et qu'on ne va pas pouvoir lui offrir parce qu'on n'est quand même pas assez fortuné, même pas une reproduction qui doit coûter très cher, et que tu as parlé tout à l'heure des sylphides et que ce tableau t'obsède, je propose que lors d'une prochaine émission d'Osmose, sur Erosmose, nous parlions, puisque ça t'obsède peut-être même la nuit, des incubes et des succubes.
Tiens, ah ben oui, puisque ça va être Halloween, là.
Voilà, voilà, exactement.
Eh bien, on fera un petit zoom sur Halloween. À l'occasion de la prochaine émission, vous nous retrouverez au mois de novembre, chers amis. À quelle date précisément, on ne sait pas encore, mais on vous tiendra au jus. Voilà, merci Mélanie d'être venue nous parler
dans cette émission. Merci Mélanie d'être venue. On a eu beaucoup de plaisir à partager cette émission avec toi.
Mais moi aussi.
Merci Loïc d'être toujours fidèle à la régie. Merci à vous, chers amis, d'avoir été à l'écoute sur Facebook ou en podcast ou ailleurs. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Et pour nous quitter, puisqu'on a parlé de pole dance dans cette émission, eh bien, je vous propose une musique dont le clip en fait, s'était fait connaître et a permis aussi de faire connaître cette danse-là. Il s'agit d'un morceau des White Stripes pour le clip duquel ils avaient embauché ou en quelque sorte débauché la mannequin Kate Moss qui faisait donc de la pole dance pendant le vidéoclip qui était en fait une reprise de Burt Bacharach. Tout de suite, on va écouter I Don't Know What To Do With Myself. Bisous, chers amis, et à bientôt.
À très bientôt. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Movies only make me sad. Parties make me feel as bad. 'Cause I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose. I
just don't know what to do with myself. Summer rose.